الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد نحن في ليلة السابع والعشرين أو الثامن والعشرين من شهر جمادى ربيع الثاني لعام 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الخامس والأربعين في دراسة كتاب التوحيد للعلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. Nous sommes le 25 janvier 2017 et nous entrons aujourd'hui, Inch'Allah, dans le 45e cours de l'étude du livre de l'unicité de l'auteur Mohammed ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et nous nous sommes arrêtés après avoir achevé l'étude du chapitre portant sur la bonne action qui est faite par la personne tout en recherchant à travers celle-ci un intérêt mondain au lieu de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le chapitre suivant, l'auteur rahimahullah ta'ala dit: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. Chapitre suivant. Obéir aux savants et aux gouvernants dans l'interdiction de ce qu'Allah a rendu permis et dans la légitimation de ce qu'Allah a interdit revient à les considérer comme des seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Munasabatu hadha al-bab li kitab at-tawhid, le lien entre ce chapitre et kitab at-tawhid, annahu min ash-shirk billahi 'azza wa jalla fa huwa bayanun lit-tawhid bi diddi. لأن الطاعة عبادة بل عبادة الله عز وجل هي طاعته سبحانه وتعالى والتفصيل يأتي إن شاء الله. Le lien entre ce chapitre et Kitab al-Tawhid est le fait que cet acte relève du polythéisme. L'auteur rahimahullah nous enseigne donc le Tawhid, le monothéisme, par son contraire, en nous mettant en garde contre son contraire. Car lorsque nous parlons de l'obéissance à Allah, Azza wa Jal, le seul qui doit être obéi dans tous ses ordres et dont tous les interdits doivent être délaissés, n'est personne d'autre qu'Allah, Azza wa Jal. Et cette obéissance est une adoration. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas ou n'est-elle pas de lui obéir en appliquant ses ordres et délaissant ses interdits subhanahu wa ta'ala. Et le détail arrive dans ce chapitre. Amma munasabatul babi lima qabla qila ma wajadna munasaba. Quant au lien entre ce chapitre et les chapitres précédents, les gens de science ont dit: nous n'avons pas trouvé la raison pour laquelle ce chapitre est venu après les chapitres parlant ou traitant des actes du cœur. Wallahu ta'ala alam. Ceci étant dit, l'obéissance aux savants et aux détenteurs de l'autorité lorsqu'ils interdisent ce qu'Allah Azza wa Jal a permis ou rendent licite, légitimise ce qu'il a interdit subhanahu wa ta'ala, revient à les prendre en seigneur en dehors d'Allah. C'est donc un chapitre qui a toute son importance. Ar-Rabbu subhanahu wa ta'ala lahul hukm al-qadari lahul hukm al-shar'i wa lahul hukm al-jaza'i subhanahu wa ta'ala. L'imam Abd al-Rahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah, dans son commentaire de Kitab al-Tawhid, a dit qu'Allah Azza wa Jal a les trois jugements. Le premier, al-hukm al-qadari. Yuqaddiru subhanahu wa ta'ala. Wa yahkumu bi hikmati azza wa jal. Allah azza wa jal décrète par sa sagesse. C'est un jugement qui vient d'Allah. Lorsqu'Allah a décrété qu'une personne allait naître pendant qu'une autre allait mourir, c'est un jugement qui émane d'Allah et qui est infiniment sage. Le deuxième jugement, al-hukm al-shar'i, yuhallil wa yuharrim. Le jugement religieux, c'est-à-dire qu'il rend licite des choses et illicite d'autres. C'est lui qui décide, subhanahu wa ta'ala. وله الحكم الجزائي يحكم على أهل النار بدخولها وأهل الجنة بدخولها. Et il a le jugement relatif à la rétribution des actes le jour dernier. C'est lui qui jugera entre ses serviteurs. Subhanahu wa ta'ala. Celui parmi eux qui mérite l'entrée au paradis l'aura, et celui qui mérite l'entrée au châtiment n'aura d'autre chose que ce que celle-ci. Ainsi, celui qui recherche autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le jugement, aura pris un seigneur en dehors d'Allah, azza wa jal. Pourquoi? Parce que al-hukm min rububiyyatillah, azza wa jal. Al-hukm, al-mutlaq, le jugement absolu vient de la seigneurie d'Allah, fait partie de la seigneurie d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Celui qui, dans ce sens, prend autre qu'Allah azza wa jal, aura appris un seigneur en dehors de lui. Subhanahu wa ta'ala. At-ta'atul mutlaqa lillahi wahdahu la sharika lah. At-ta'atul mutlaqa. أما غير الله عز وجل فإن كان مستحقا للطاعة فإنها مقيدة بطاعة الله عز وجل. L'obéissance absolue est un droit à Allah seul. Nul ne le partage et ne doit le partager avec lui. Quant à l'obéissance de ceux qui méritent d'être obéis, comme les détenteurs de l'autorité, comme les pères et mères et autres, eh bien, cette obéissance est conditionnée, soumise à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous allons le voir. Wa ta'atun nabi sallallahu alayhi wa sallam, et l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, hiya ta'atun lillahi ta'ala. Fa ta'atuhu ta'atun mutlaqa. L'obéissance au messager sallallahu alayhi wa sallam est une obéissance à Allah. L'obéissance qu'on doit lui donner revient à obéir à Allah. Pourquoi? Car il transmet ce qu'Allah a révélé. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison que dans de nombreux versets, ati'u Allah wa ati'u Rasul, obéissez à Allah et obéissez à son messager. Et il n'est nullement permis à un croyant de s'opposer un ordre du messager sallallahu alayhi wa sallam. وَيَبْقَى الْعُلَمَا وَالْأُمَرَى. En dessous, il y a les savants et les détenteurs de l'autorité. فَلَهُ مِنَ الطَّاعَةِ مَا يُوَافِقُ طَاعَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. On doit leur donner l'obéissance tant que nous restons dans l'obéissance d'Allah. تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Car la règle est le hadith, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Nulle obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. C'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est une règle. Le cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala, nous explique que dans ce chapitre, on ne va pas trouver un verset qui va traiter directement de cette obéissance à autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais dans le Coran, on voit qu'Allah azza wa jal a dit dans sourate Al-Ahzab, وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Dans le sens du verset, les gens viendront se plaindre à Allah le jour dernier, les gens qui étaient dans ce bas-monde des suiveurs, soumis aux ordres de ceux auxquels ils étaient soumis. Ils viendront se plaindre d'eux devant Allah le jour dernier et lui diront « Ô Seigneur, nous avons obéi à nos élites et nos grands. Ils nous ont alors égarés du droit chemin. Ô Seigneur, inflige-leur un double châtiment et une malédiction de toi. » Donc, Al-Sheikh Al-Fawzan a dit « وَهَذَا مَا يُسَمَّى بِشِرْكِ الطَّاعَ » Et ceci est ce que l'on appelle le shirk dans l'obéissance. Il va nous le définir.
لِأَنَّ الْعِبَادَةَ مَعْنَاهَا طَاعَةُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِفِعْلِ أَوَامِرِهِ وَتَرْكِ نَوَاهِهِ
Car l'obéissance, car l'adoration d'Allah, son sens, c'est d'obéir à Allah en appliquant ses ordres et délaissant ses interdits. Et bien parmi ses ordres et ses interdits,
وَمِنْ ذَلِكَ مَسْأَلَةُ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ
La question relative au fait de rendre interdit ou de légitimiser une chose.
فَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي الْعِبَادَةِ بدليل قوله تعالى لما ذكر ما يفعله المشركون من استباحة ما حرم الله من الميتة التي حرمها وهم يستحلونها ويقولون هي أولى بالأكل من المذكاة لأن المذكاة أنتم ذبحتموها وأما الميتة فإن الله هو الذي ذبحها وكانوا يتلقوا هذه المقالة من المجوس
الشيخ الفوزان nous explique qu'il y a une preuve de cela dans le Coran. Il nous dit que quand Allah Azza wa Jal, quand Allah Subhanahu wa Ta'ala a mentionné dans le Coran ce qu'ont fait les polythéistes qui déclaraient licite ce qu'Allah avait interdit, comme la consommation de la viande morte, la bête qui n'a pas été sacrifiée selon le rite de l'islam, en prononçant le nom d'Allah et en tranchant sa gorge. Lorsque eux agissaient de la sorte, ils déclaraient cette action licite et disaient comme argument « Cette viande-là est plus en droit d'être consommée que l'autre que vous sacrifiez. Pourquoi » Pourquoi ? Car celle que vous sacrifiez, vous l'avez sacrifiée de vos mains, alors que la viande morte, donc c'est la viande qui n'a pas été sacrifiée, c'est Allah qui l'a sacrifiée. Wal'iyadhu billah. D'où est-ce qu'ils ont pris cette parole? Des majus, les mages. Ce sont les adorateurs du feu. Ce sont des polythéistes qui avaient cette conviction que la bête morte a été sacrifiée par Allah. C'est Allah qui l'a rendue dans cet état, donc elle est licite. Alors que la bête que vous sacrifiez avec vos mains est moins licite que celle-ci, wal'iyadhu billah. Allah a alors révélé les versets suivants.
فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ
Mangez alors de ce sur quoi le nom d'Allah a été cité si vous êtes croyant en ses signes. Jusqu'à la fin où Allah Azza wa Jal dit
وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقَ
Et ne mangez pas ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été mentionné. Ceci est de la perversité. فِسْق والفِسْق والخروج عن طاعة الله الفاسق والعاصي Ceci est de la perversité, c'est-à-dire de la désobéissance.
وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوهُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ
Et certes, les démons révèlent à leurs alliés, ils insufflent à leurs alliés des paroles afin que vous débattiez avec eux. De quoi est-ce que l'on parle ? On parle de leurs arguments qu'ils donnent. Ces arguments viennent du shaitan, ne viennent pas d'une législation, ne viennent pas d'un livre Coran, ne viennent pas d'une sunna. Ce sont les démons qui leur donnent ces paroles à dire lorsqu'ils disent que la viande morte est meilleure que celle que vous sacrifiez avec vos mains pour telle et telle raison. Puis Allah Azza wa Jalla a dit « Wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun » Et si vous leur obéissez, alors vous deviendrez polythéistes. Al-Sheikh Al-Fawzan dit « In ata'tumuhum fi istibahati al-mayta wa khalaftum amra Allah Azza wa Jalla bitarkiha innakum la mushrikun » Si vous leur obéissez lorsqu'ils déclarent licite la viande morte et contreviennent à l'ordre d'Allah, Azza wa Jal, eh bien, et si vous contreveniez à l'ordre d'Allah, Azza wa Jal, vous serez alors polythéiste, associateur. Dans quoi ? Dans le fait d'avoir déclaré licite ce qu'Allah a interdit et d'avoir légitimisé donc ce qu'Allah a interdit, et d'avoir interdit ce qu'il a prescrit. Subhanahu wa ta'ala. Donc voici de quoi nous allons parler. Puis le cheikh Salah al-Fawzan dit « فَطَاعَةُ الْعُلَمَاءِ وَالْأُمَرَىٰ فِي مِثْلِ هَذَا شِرْكِ » Dans ce registre, l'obéissance aux savants et aux gouvernants est du polythéisme. Lorsqu'il s'agit de légitimiser un interdit ou interdire un prescrit. في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فإن كان الذي أطاعهم الآن يبين الحكم فإن كان الذي أطاعهم يعلم أنهم خالفوا أمر الله في ذلك وتعمد طاعتهم واستباح هذا فهذا شرك أكبر يخرج من الملة. Maintenant, il en vient au jugement de cette action. Si celui qui leur donne obéissance sait que ceux à qui il a obéi ont contrevenu à l'ordre d'Allah, Azza wa Jal, puis il leur a, lui, obéi intentionnellement en déclarant licite son acte, eh bien à ce moment-là, ça sera du polythéisme majeur. Il quittera l'islam. Parce qu'il sait que ce qu'il fait est du shirk. Il le fait en pleine connaissance de cause, il quitte l'islam. La deuxième catégorie, وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَطَاعَهُمْ يَعْتَقِدُ أَنَّ هَذَا حَرَامٌ Et si celui qu'il leur donne obéissance a la conviction que c'est un interdit, وَيَعْتَرِفُ أَنَّ هَذَا خَطَى et reconnaît que c'est une erreur de sa part, ولكنهم أطاعهم لهوى في نفسه أو رغبة في نفسه مع اعترافه بالمعصية فهذا شرك أصغر. Et il le fait, il leur obéit malgré ce qu'il connaît de la vérité, car c'est une passion, c'est quelque chose qui le tente, il est tenté à faire cela, tout en reconnaissant que c'est une erreur et un péché. Eh bien alors, ça sera du polythéisme mineur. C'est-à-dire qu'il ne sortira pas de l'islam pour cela. وَإِنْ كَانَ أَطَاعَهُمْ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُمْ خَالَفُوا شَرْعَ اللَّهِ Et s'il leur obéit en ignorant qu'ils contreviennent à l'ordre d'Allah, Azza wa Jal, si tu lui demandes et l'interroges, il te répondra, pour moi j'obéis à Allah, je ne vois pas ce que je fais de mal, je ne connais pas, ce sont des gens qui sont savants, connaisseurs, je les suis. Celui-là, il est excusé. بَلْ ظَنَّ أَنَّهُمْ عَلَى حَقْ فَهَذَا مَعْذُورٌ إِنْ كَانَ مِثْلُهُ يَجْهَلُ ذَلِكَ Il est excusé s'il ignore le jugement de cette chose. Venons-en maintenant à notre époque et à ce que vivent beaucoup de gens qui disent « La ilaha illallah » Muhammadun Rasulullah, particulièrement les adeptes du soufisme, Ahlu al-Tasawwuf, al-Soufiyya, bi turuqihim al-Mukhtalifa, les gens du soufisme, aussi diverses soient les voies qu'ils suivent. On a Tariqatul Qadiriyya, la voie appelée Qadiriyya, Tariqatu Tijaniya, la voie appelée Tijaniya. On a Al-Jishtiya, الطريقة الجشتية، هنا الطريقة النقشبندية، الطريقة السهروردية، الطريقة السمانية، والقائمة طويلة. La liste est longue. Et chacun de ces gens-là suit un gourou et disent qu'il doit avoir l'obéissance de tous ses disciples. Et ces disciples sont ceux que l'on appelle al-murid, le murid. Le murid, c'est quelqu'un qui va suivre le maître. Ils disent Sheikhuna, notre Sheikh, à qui il donne l'obéissance complète et totale. Si le Sheikh lui dit de se lever à 3h du matin et d'aller à tel endroit chercher telle chose, il le fera. Si le Sheikh lui donne un ordre qui est une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, il mettra en application cet ordre. Wal'iyadu billah. Eh bien, cette obéissance-là, c'est du shirk billahi subhanahu wa ta'ala. Car le seul à avoir le droit à être obéi de façon absolue, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux autres, s'ils font partie des gens qui méritent une obéissance, alors cette obéissance est partielle et conditionnée à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que dire alors lorsque ces gourous les appellent à commettre le shirk, à les adorer en dehors d'Allah? Rendez-vous dans tel et tel mausolée, telle et telle tombe, et invoquez-les en dehors d'Allah. Wal'iyadu billah. Eh bien, cela entre complètement dans ce chapitre, mais ce n'est qu'un exemple. Toutes les autres formes, à partir du moment où les conditions précitées qui viennent d'être évoquées sont réunies, eh bien, la personne est concernée par ce qui va venir dans ce chapitre. Quant à l'obéissance des savants et des détenteurs de l'autorité, dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, فَهَذَا وَاجِبٌ شَرْعِي طَاعَةُ الْأُمَرَاءِ وَالْحُكَّامِ وَطَاعَةُ الْعُلَمَاءِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَاجِبٌ مِنْ أُصُولِ عَقِيدَةِ الْمُسْلِمِ. C'est un devoir qui est un fondement de la croyance du musulman. Et ceci vient des versets du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum. Ô vous qui avez eu la foi, obéissez à Allah, obéissez à son messager et à ceux qui détiennent le commandement parmi vous. Qui sont donc ceux qui détiennent le commandement? Man hum ahlu aw ulul amr minna. Qui sont ceux qui détiennent le commandement? Le Shir Salih al-Fawzan a dit « Qil humul umara wa qil humul ulama ». Il fut dit qu'il s'agit des gouvernants, tout comme il fut dit qu'il s'agit des savants. « Wa sawabu anna al-ayata ta'ani al-ulama wa al-umara ama'an. Fakulluhum min ulil amr. Fal-ulama yubayyinuna al-ahkam al-shar'iyya wa al-umara yunafidhunaha. » Et la parole juste est de dire que les deux sont concernés. Les savants et les gouvernants doivent être obéis dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Quel est le rôle des savants? Le rôle des savants, c'est d'éclaircir et de mettre au clair pour les gouvernants les jugements religieux. Quel est le rôle des gouvernants? De les appliquer. D'appliquer les jugements d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit donc pas obéir de façon absolue aux détenteurs de l'autorité. Nous sommes en train de parler d'un pays musulman. Ça, c'est une chose importante. On ne doit pas obéir de façon absolue aux détenteurs de l'autorité, tout comme on ne doit pas leur désobéir de façon absolue. On leur obéit plutôt tout en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a précisé ici cette question qui est obéir quand on légitimise un interdit ou quand on rend licite ou quand on interdit quelque chose qui est prescrit. Quelques textes vont être cités sous ce chapitre. Le premier est une parole, un athar, de l'imam Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qui est le cousin paternel du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, « Yushiku an tanzila alaykum hijaratun minas sama, aqul, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما a dit peu s'en faut que des pierres tombent du ciel et ne s'abattent sur vous. Je vous dis, le prophète a dit صلى الله عليه وسلم, et vous rétorquez, Abu Bakr et Omar ont dit. Qui sont Abu Bakr et Omar? Man huma Abu Bakr wa Omar radiyallahu anhuma. Afdalul bashar ba'd al anbiya. Bila khilaf. Wa man yukhalifu fi hadha fahum ar-rafida. Qabbahahum Allah yukaffirunahuma wa yaquluna inna Abu Bakr wa Omar kafiran billahi subhanahu wa ta'ala. Wa hadha min al-buhtan al-'azim. Et Abu Bakr et Omar sont les élites de l'humanité après les prophètes. Les meilleurs hommes sont Abu Bakr et Omar. Et celui qui ne croit pas en cela s'est égaré, comme cela est le cas des Rafida, les chiites les plus égarés, car ils sont plusieurs branches, les plus exagérateurs, les plus égarés, les déclarent carrément sortis de l'islam. Abu Bakr et Omar ne sont plus des musulmans. Wal'iyadu billah. Et seule une langue attachée à un cœur noir et ténébreux et obscur peut prononcer une telle parole, alors que des textes vantent les mérites de ces deux compagnons. Et bien, malgré cette place qu'ils ont chez Allah subhanahu wa ta'ala, une divergence a eu lieu sur une question. Mal amr hona, mal mawdu'. De quel sujet est-ce que l'on parle? À qui s'adresse à Ibn Abbas radiyallahu anhuma? Et pourquoi leur dit-il une telle parole? La réponse, هذا في مسألة كيفية أداء الحج. Cela est dans la question de la façon d'accomplir le pèlerinage. Dans l'islam, il y a trois façons d'accomplir le pèlerinage. Il y a ce que l'on appelle التمتع. Il y a ce que l'on appelle الإفراد et ce que l'on appelle القران. تفصيلهما في تفصيلها في في الكتب المصنفة من أجلها. Donc, il y a trois façons de faire le pèlerinage. Les détails ne sont pas dans notre sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le pèlerinage d'une façon que l'on appelle al-ifrad. Il a apporté avec lui la bête qu'il devait sacrifier pour le jour du Eid. Mais a dit à ses compagnons, ceux parmi vous, man lam yasuq al hadi, ceux parmi vous qui n'ont pas apporté avec eux la bête du pèlerinage, amarahum an yafsakhu al ihram wa yaj'aluha umra. Il leur a dit de sortir de l'état de sacralisation. C'est l'état dans lequel on se met pour accomplir la umra ou le pèlerinage, et d'en faire une umra pour pouvoir faire le pèlerinage un peu plus tard. Si ce n'est que des personnes ont divergé en la présence de Abdullah ibn Abbas, car Abu Bakr radiyallahu anhu et Omar radiyallahu anhu ont dit, d'après un effort d'interprétation, et ils sont aptes à le faire, اجتهدا وهما إمامان في الاجتهاد رضي الله عنهما وإن أصابا فلهما أجران وإن أخطأ فلهما أجر واحد وهم أفضل الناس بعد الأنبياء. Ils ont fait un effort d'interprétation et ont estimé qu'il était meilleur malgré tout de faire le pèlerinage de telle façon. Et Abdullah ibn Abbas a dit aux gens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le pèlerinage certes de cette façon, mais il a dit aux compagnons de changer la façon de faire, dans une des trois façons qu'on a citées. Eux ont dit, oui, mais Abu Bakr et Omar ont dit. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, s'est mis en colère et a dit, يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. Peu ne s'en faut qu'une pluie de pierres vienne vous frapper du ciel. Je vous dis, le messager d'Allah a dit, et vous me répondez, Abu Bakr et Omar ont dit. Et ça, ça nous enseigne une règle dans l'islam. وجوب اتباع الدليل. L'obligation de suivre la preuve. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, s'est basé sur la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr et Omar, radiallahu anhuma, ont fait un effort d'interprétation, mais la parole juste, c'est celle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec l'immense respect et amour qu'on leur porte. Mais quand on voit la parole du prophète, alayhi salatu wa sallam, c'est elle qu'on suit. Et ça, c'est une règle. Regardez ce que va dire Cheikh Al-Fawzan. فَإِذَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُنْكِرُ عَلَى مَنْ أَخَذَ بِرَأْيِ الْخَلِيفَتَيْنِ الرَّاشِدَيْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ لِأَنَّهُ اجْتِهَادٌ مُخَالِفٌ لِلنَّصِ وَأَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ الْعُقُوبَةِ فَكَيْفَ بِطَاعَةِ الْعُلَمَاءِ وَالْأُمَرَاءِ فِي التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ. Et s'il en est ainsi, Abdullah ibn Abbas, il dit, s'il en est ainsi que Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, a réprimandé fortement des gens qui ont pris la parole de Abu Bakr et Omar, radiallahu ta'ala anhuma, car ils ont fait un effort d'interprétation qui a malgré tout contredit un texte, et peu s'en faut qu'ils méritent pour cela un châtiment. Mais que dire alors de ceux qui obéissent à des savants ou à des gouvernants quand ils légitimisent quelque chose qu'Allah a interdit ou interdisent quelque chose qu'Allah a prescrit. Subhanahu wa ta'ala, min ghayri dalil, sans preuve en plus de cela. Simplement un ordre et il s'exécute. C'est bien plus grave sans le moindre doute. Wa hadha mimma yadullu ala wujub ihtirami sunnati ar-rasul. Sallallahu alayhi wa sallam. Ceci nous montre l'obligation de respecter, de valoriser la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa annaha hiya al-muntaha ba'da kitabillah. Et on s'arrête à elle, la sunna, après le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il y a un effort d'interprétation qui est fait, cet effort d'interprétation doit être posé sur la balance du livre d'Allah et de la sunna. S'il est en concordance avec les textes, il est suivi. S'il ne l'est pas, il n'est pas suivi. Voici les règles des gens de la sunna dans ces sujets très importants. Le Cheikh Al-Fawzan dit « Walijtihad sa'ir ». L'effort d'interprétation est permis. والاجتهاد هو استنباط الأحكام الشرعية من أدلة الكتاب والسنة. Et l'effort d'interprétation, c'est le fait de déduire des règles religieuses des textes du Coran et de la Sunna. Mais attention, il n'appartient pas à quiconque de le faire. الاجتهاد له أهله. Les gens qui peuvent faire l'effort d'interprétation sont ceux qui ont les aptitudes pour le faire. Ulama fil usul, ulama fil lughat al arabiyya, ulama fil tafsir. Ils sont savants dans les fondements de la jurisprudence, ulama fil fiqh, dans la jurisprudence elle-même, savants dans le Coran, savants dans la langue arabe. Il n'appartient pas à n'importe qui d'apparaître et de faire un effort d'interprétation puis de dire ijtahadtu. In asabtu fali ajrain wa in akhta'tu fali ajrun wahid. J'ai fait un effort d'interprétation. Si j'atteins l'opinion juste, le bon avis, alors j'ai deux récompenses car c'est cité dans un hadith. Et si je fais erreur, j'espère quand même une récompense d'Allah. Al-Sheikh Al-Fawzan yaqul liman laysa ahlan lil ijtihad in ijtahada wa asaba fa huwa mudhnib. que celui qui n'a pas les aptitudes pour faire un effort d'interprétation, puis en fait un et atteint le bon avis, est pécheur chez Allah. Il n'a pas de hasanat. Subhanallah, ça ne va pas ou quoi? Quelqu'un vient et fait un effort d'interprétation. Ahlul ilm yaf'alunahu. Ce sont les gens de science qui œuvrent de cette manière. Et combien se sont égarés à cause de ça? Car ils ont suivi des gens et ils ont dit, lorsque les savants ont montré leurs erreurs, ils ont dit, mais ce sont des gens de science. Ils ont fait un effort d'interprétation qui est respectable. Et eux aussi. Ijtahadu aydan. وما يدريك أنه أصاب وأن هذا أخطأ يجعل العالم والجاهل على نفس المستوى. Ils mettent l'ignorant et le savant au même niveau et ils disent lui aussi il a fait un effort d'interprétation. هذا باطل. هذا يدعوك إلى البدعة بل ربما يدعوك إلى شر من ذلك. Cette façon de faire t'amène à l'innovation et t'amène à plus grave encore. والعياذ بالله. Donc voilà ce qu'il en est. Lorsqu'il y a divergence, Allah Azza wa Jalla a dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Si vous divergez dans quoi que ce soit, renvoyez cette chose à Allah et son messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, cela est meilleur et de meilleure interprétation. Donc on ne doit pas agir en contredisant cela. Qu'en est-il du musulman de la masse qui n'a pas les outils ni pour comprendre ni pour arriver à tout cela? La réponse est la suivante: wal 'ammi yawajibuhu yas'alu ahla al-'ilm. Le musulman de la masse, son devoir, c'est d'interroger les gens de science. Et il prend leur parole. Car Allah Azza wa Jalla a dit فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Demandez aux gens du rappel. Le rappel, c'est le Coran et la Sunna. Il s'agit des savants. Si vous ne savez pas. Après cela, l'auteur rahimahullah a dit وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان أي الثوري والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. L'imam Ahmad rahimahullah. Et qui te dira qui est l'imam Ahmad? Imam Ahli Sunna. L'imam des gens de la Sunna rahimahullah a dit: Je n'aurai de cesse de m'étonner des personnes qui connaissent les chaînes de rapporteurs et leur authenticité, mais qui pourtant se limitent à la vie de Soufiane. Alors qu'Allah le Très-Haut a dit, traduction rapprochée, que prennent garde ceux qui s'opposent à son commandement, qu'une épreuve les atteigne, ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Sais-tu quelle est cette épreuve? C'est le polythéisme. Il se peut qu'un individu qui rejette certaines paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam voit une perversion naître dans son cœur et ceci le perdra. Étudions un peu cette parole de l'imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Comme a dit le cheikh Abdurrazzaq, هذا القول نظير قول ابن عباس رضي الله عنهما السابق ذكره. Cette parole équivalente à celle prononcée par Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Il s'agit ici, lorsque l'on dit Soufyan, de Soufyan ibn Sa'id al-Thawri rahimahullahu ta'ala min a'immati al-hadith, qui fait partie des pieux prédécesseurs, un des imams du hadith, wa fi al-tafsir, wa fi al-fiqh, dans le tafsir, dans la jurisprudence, rahimahullah ta'ala, et d'autres choses ont été dites sur ce noble personnage. L'imam Ahmad rahimahullah a dit, je n'aurai de cesse de m'étonner de gens qui ont connu l'authenticité de la chaîne de rapporteurs. Ce que l'on appelle al-isnad, la chaîne de rapporteurs. C'est-à-dire que lorsque l'on lit un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment les savants font pour déclarer ce hadith authentique ou non, à prendre ou à délaisser, véridique ou mensonger, ayant des fondements ou à inventer. Il y a des règles dans une science que l'on appelle Mustalah al-Hadith, la science de la terminologie du hadith, dans laquelle des conditions ont été déduites des textes du Coran et la Sunna et posées dans des livres, puis enseignées, tout ceci dans le but de préserver la Sunna. On appelle ça al-Isnad. Afin de vous éclairer, je vous donne l'exemple suivant. Je vous dis aujourd'hui, nous étudions Kitab al-Tawhid. Tariq va aller voir Walid et lui dire, j'ai entendu Sadiq dire, nous étudions Kitab al-Tawhid. Walid va aller voir Omar et lui dire, Tariq m'a rapporté que Sadiq lui a dit, nous étudions Kitab al-Tawhid, et ainsi de suite. Puis un jour tu entends, il paraît que Sadiq a dit, nous étudions Kitab al-Tawhid. Tu veux vérifier l'authenticité de cette parole, que fais-tu? Tu cherches la chaîne de rapporteurs. Qu'est-ce que tu dis? D'où vient cette parole? Qui te l'a dit? Omar dit, je l'ai entendu de Walid. Walid lui-même m'a dit qu'il l'a entendu de Tariq. Et Tariq lui-même l'a entendu de Sadiq. Eh bien, cette chose-là, c'est ce que l'on appelle la chaîne de rapporteurs. Quand un hadith est déclaré authentique par les savants, ils ne l'ont fait qu'après avoir étudié la chaîne de rapporteurs et veillé à ce que les rapporteurs du hadith soient loyaux, intègres, soient des gens qui ont une mémorisation correcte et qui sont connus pour tout cela. À partir de cela, ils le déclareront authentique ou non. Eh bien, l'imam Ahmad a dit, je ne cesse de m'étonner de gens qui ont pris connaissance de l'authenticité de la chaîne de rapporteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? De l'authenticité du hadith. Car si la chaîne de rapporteurs est authentique, le hadith l'est aussi. Je m'étonne de gens, en résumé, ça veut dire, je m'étonne de gens qui savent que le hadith est authentique, donc qui connaissent قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, puis qui vont suivre l'avis de Sofiane al-Thawri, malgré les grands mérites qu'il a, ce grand imam de la Sunna, rahimahullah. Eh bien, l'imam Ahmad s'étonne de gens qui ont ce comportement. Ils connaissent le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et vont suivre la parole de Sufyan al-Thawri. Puis il a cité la parole d'Allah azza wa jal, le sens rapproché, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أي الرسول sallallahu alayhi wa sallam, que prennent garde ceux qui contreviennent à son ordre. Il s'agit de l'ordre du messager sallallahu alayhi wa sallam. أن تصيبهم فتنة, que ne les atteigne un trouble, أو تصيبهم عذاب أليم, ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم بارك الله فيك أو يصيبهم عذاب أليم, ou un châtiment douloureux. الأصل أن يقال الذين يخالفون أمره يخالفون أمره. لماذا قال عز وجل يخالفون عن أمره؟ قال الشيخ عبد الرزاق جزاه الله خيرا, هذه إشارة إلى أنهم تركوا أمر الله عز وجل مع الإعراض عنه. أصلا هم أعرضوا عن أمر الله عز وجل, ما أرادوا أن يتعلموا وما أرادوا شيئا من ذلك, أعرضوا عنه فتركوا. Que prennent garde ceux qui s'opposent à son ordre, ceux qui contreviennent à son ordre, jusqu'à la fin du verset. Quel est le trouble? L'imam Ahmad rahimahullah a dit, sais-tu quel est le trouble? Le trouble, c'est le polythéisme, c'est le shirk. Pourquoi? Parce que celui qui ne suit plus la sunna n'est plus à l'abri du polythéisme. N'est-ce pas que c'est la sunna qui est venue nous clarifier les questions relatives au tawhid en détail, au shirk en détail? Et celui qui ne suit plus la sunna est enclin à tomber dans le shirk. Comme on le voit dans les gens qui ont commencé par des petites innovations jusqu'à adorer autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme ceux qui sont concernés par ce sujet et qui ont obéi à autre qu'Allah quand ils ont légitimisé l'interdit ou interdit le prescrit. Ça, c'est du shirk. Ils sont tombés dedans. Wal'iyadu billah.
لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.
Il se peut que lorsque la personne se détourne de quelques-unes de ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un égarement vienne prendre son cœur et alors cette personne périra.
والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فقلت له إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم رواه أحمد والترمذي وحسنه.
Le dernier texte est rapporté par l'imam Ahmad rahimahullah d'après le noble compagnon Adi ibn Hatim. Adi ibn Hatim est un compagnon dont le père était polythéiste, Hatim al-Ta'i. وحاتم الطائي هذا كان من مشركي قريش كان أكرمهم حتى صار مضرب المثل في الكرم.
Son père Hatim al-Ta'i était un polythéiste de Quraysh, le plus généreux d'entre eux. Il a eu cette notoriété où il était très connu par sa générosité, au point où les gens qui voulaient déclarer quelqu'un généreux disaient il ressemble à Hatim al-Ta'i. Et malgré cela, quand Adi radiyallahu an a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son père, wa kana min akrami an-nas ayanfa'uhu dhalik karamuhu hadha ma'a annahu mushrik, est-ce que cette générosité dont il faisait preuve lui sera d'une quelconque utilité le jour dernier alors qu'il est polythéiste? Qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qala la la yanfa'u. Cela ne va pas lui être utile. لماذا لأنه مشرك والكرم مع الشرك لا يقبل. Car la générosité avec le polythéisme n'est pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala.
Adi ibn Hatim رضي الله عنه a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter la parole d'Allah selon le sens du verset. Ils ont pris leur rabbin et leur moine comme seigneur en dehors d'Allah, jusqu'à la fin du verset. Je m'écriais, nous ne les adorions pas, c'est-à-dire à l'époque où ils n'étaient pas encore musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, n'interdisait-il pas ce qu'Allah avait rendu permis, et vous l'interdisiez, c'est-à-dire vous l'interdisiez aussi? Ne légitimait-il pas ce qu'Allah avait interdit et vous le légitimiez? Je reconnus, c'est vrai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam conclut alors, telle était l'adoration que vous leur vouiez. C'est ça l'adoration dans ce sujet-là. C'est de leur avoir donné obéissance alors qu'ils ont interdit le prescrit et prescrit l'interdit. Wal'iyadu billah. Alors que comme beaucoup de gens disent, par exemple, nous suivons tel et tel imam, nous suivons. Eh bien, écoutons un peu quelques paroles des quatre imams. L'imam Ahmad, rahimahullah, Abu Hanifa, Shafi'i, Malik. Qu'est-ce que ces savants ont dit et comment ont-ils éduqué les membres de la communauté? Car aujourd'hui, des gens disent, si Malik a dit, je ferme les yeux et je m'exécute. Est-ce que Malik lui-même a dit aux gens de faire cela? Si Shafi'i a dit, alors je m'exécute. Est-ce que Shafi'i lui-même a dit aux gens de faire cela? Eh bien, regardez un peu. Quant à l'imam Ahmad, rahimahullah, on vient de voir ici un exemple des paroles qu'il prononçait. Quant à l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, de nombreuses paroles ont été rapportées de lui. Parmi celles-ci, il y a ce que je vais vous trouver, inshallah, car le Cheikh Al-Fawzan a cité. إذا جاء القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. لماذا يقول هذا الكلام؟ لأنه من أتباع التابعين من طلاب التابعين فله أن يقول هذا الكلام. الإمام أبو حنيفة رحمه الله أدين. Si vous vient la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors, sur ma tête et les yeux, c'est-à-dire je l'accepte immédiatement. Et si une parole vous vient des compagnons, sur ma tête et les yeux, je l'accepte immédiatement. Et si une parole vient des tabi'un, ceux qui ont vécu avec les compagnons, alors ce sont des hommes et nous aussi. Mais de quoi est-ce qu'il parle ici? Abu Hanifa radiyallahu anhu faisait partie des élèves des tabi'in. Il peut prononcer cette parole. Quant à un ignorant qui viendrait à cette époque, et comme on l'a entendu, je lui dis, قال ابن عباس تفسير الآية كذا وكذا. Abdullah ibn Abbas a dit dans l'explication du verset telle et telle chose, il te répond, هو رجل ونحن رجال. أعوذ بالله. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il te dit, ibn Abbas est un homme et nous en sommes aussi. C'est ce que tu crois. C'est ce que tu crois. Et c'est une parole qui amène à l'égarement et qui amène à ne pas suivre la parole des salaf. As-salih, radiyallahu anhum, wa rahimahumullah. Ça, c'est la parole de Abu Hanifa. Al-Shafi'i, radiyallahu, rahimahullah, a dit, « إذا صح الحديث فهو مذهبي. » Si le hadith est authentique, alors c'est mon avis. Et d'ailleurs, l'imam Al-Qurtubi, rahimallah, a dit dans un avis, l'imam Al-Qurtubi ou un autre, Al-Qurtubi, rahimallah, a dit dans un avis qu'avait eu l'imam Shafi'i avant de mourir. Il avait eu un avis dans une question. Puis il est mort. Après sa mort, l'imam a trouvé un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui contredisait l'avis adopté par l'imam Shafi'i. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, هذا هو مذهب الشافعي. Voici l'avis de l'imam Shafi'i. Pourquoi? Parce que l'imam Shafi'i a éduqué les gens en leur disant, إذا صح الحديث فهو مذهبي. مذهبي هو الحديث الصحيح. أنا أخطي وأصيب. إن مت وعلمتم صحة الحديث فهذا هو مذهبي. أنا لا أدعو الناس إلى أن يتعلقوا بي ويتعصبوا بي. Je n'appelle pas les gens à me fanatiser ou à s'agripper à moi. Non. Si le hadith est authentique, c'est mon avis. Et donc, quand il a vu un hadith authentique après la mort de l'imam Shafi'i, il a dit, c'est l'avis de Shafi'i. Pourquoi? Parce que si Shafi'i avait vu ce hadith, il aurait dit, c'est mon avis. Et il aurait laissé son ancien avis. Il a aussi dit, إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقول عرض الحائط. Si mon avis contredit celui du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, prenez alors l'avis du prophète صلى الله عليه وسلم et jetez ma parole contre le mur. C'est comme ça qu'ils ont éduqué les gens. رحمهم الله تعالى. Et d'autres paroles encore. L'imam Malik, rahimahullahu ta'ala, ala kulli hal, l'imam Malik, rahimahullahu ta'ala, a deux paroles de ce genre, parmi lesquelles il dit, c'est sur quoi on va s'arrêter, inshallah, awa kullama ja'ana rajulun ajdal أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء لمن مالك رحمه الله دين. Est-ce qu'à chaque fois qu'un homme nous vient qui est plus orateur, il parle encore mieux, il est plus convaincant dans ce quand il parle qu'un autre, nous allons délaisser ceux avec quoi Jibril est venu au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la révélation, pour suivre la parole de ces gens-là? Ça, c'est une éducation. Des fois, on dit, je l'ai entendu un tel, il s'exprime tellement bien, il est si convaincant, c'est un orateur éloquent, mais est-ce que parce qu'il est éloquent, on doit le suivre? Même s'il fait partie des gens les plus éloquents, si son éloquence a contredit la sunna, alors sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna min al-bayani la sihra ». Il y a dans l'éloquence une forme de sorcellerie. Il t'a ensorcelé, il t'a amené avec toi dans le faux. Et si ces imams ont ces paroles-là, que dire alors du comportement du musulman avec des gens qui sont bien moindres qu'eux, qui n'ont pas leur niveau, ni de science, ni de piété, ni de rien de tout cela? نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك